Verdi, nos oreilles, pour ne pas dire nos mains, maintenant sur CFM Radio dans Plantes, Histoire de Plantes, en partenariat avec le Jardin des Merveilles de Vaour et en compagnie de Rémi Culic. Bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un groupe de plantes que l'on peut qualifier de plantes bio-indicatrices. Il ne s'agit pas d'une famille en particulier ou d'un certain type de plantes, mais ce sont des plantes, comme le dit ce nom, la bio-indicatrice, donc qui nous indique quelque chose qui se passe au niveau biologique, même si on peut le calquer aussi au niveau chimique. On va déjà commencer par peut-être définir qu'est-ce que c'est qu'une plante bio-indicatrice, Rémi.
Bah, elles le sont toutes, en fait, je dirais. C'est plus plante bio-indicatrice, c'est une méthode, en fait. C'est pas une définition de plante, c'est une définition de méthode. Mmh. C'est le fait de relever, identifier les plantes qui poussent sur un sol, qui ont germé sur un sol, et de définir l'état du sol à ce moment-là grâce aux plantes qui poussent dessus.
Et donc, en gros, c'est observer des plantes qui poussent sur un terrain, et à partir de là, commencer à avoir une analyse un peu macroscopique de ce qui pourrait se passer pour le coup au niveau microscopique.
Exactement, ouais, voir comment ça fonctionne au niveau des éléments fertilisants dans le sol, au niveau de l'aération, au niveau de qu'est-ce que le sol qu'on peut contenir, qu'est-ce qu'on va pouvoir cultiver derrière. Mais alors c'est vraiment un outil agricole, hein. C'est pas juste en regardant les plantes comme ça où on va se dire tiens il doit se passer ça. Ça, c'est un peu, alors quand on débute, il y a quelques bouquins qui parlent de plantes bio-indicatrices et on va voir, tiens, il y a un pissenlit qui pousse sur mon terrain, je vais voir la page du pissenlit, tiens, ça indique ça. Non, ça veut dire que mon sol est comme ci, comme ça. Donc, c'est pas vraiment exactement comme ça que ça marche, c'est quand même un peu plus complexe. Il va falloir déjà faire identifier une parcelle sur laquelle les populations végétales sont homogènes. Et ensuite, identifier chaque plante qui pousse. Pour chaque plante, définir un taux de recouvrement, ça veut dire chaque plante, elle est à un tel pourcentage de recouvrement. Couvrement du sol. Et ensuite, il y a tout un tableau à remplir. Et à la sortie de ce tableau, on va pouvoir analyser vraiment l'état du sol à ce moment précis.
Alors, tu nous as dit que toutes les plantes sont potentiellement des plantes bio-indicatrices. Elles nous indiquent forcément quelque chose qui se passe à l'endroit où elles se trouvent. Mais il y a quelques-unes qui sont un peu, on va dire, emblématiques. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes de ces fameuses plantes bio-indicatrices ?
Alors oui, il y en a quelques-unes. Moi, je vais citer celle qui pousse chez moi, mais parce que je l'ai appliqué cette méthode dans différents types de sols, mais chez moi, je l'applique au moins une fois par an, plutôt deux fois par an. Bon, les plantains en général, surtout le plantain, le grand plantain, lui est indicateur de sol un petit peu tassé. J'ai le gaillet gratteron, le lamier pourpre qui pousse chez moi, qui eux sont plutôt indicatrices de sol lessivé où les éléments minéraux vont disparaître en profondeur parce que j'ai un sol très très sableux. Donc voilà, il y en a quelques-unes comme ça qui sont indicatrices de l'évolution par rapport aux méthodes aussi qu'on va pratiquer chez nous.
Aussi, quand on parle des plantes bio-indicatrices, oui, tu nous as dit que ça concerne toutes les plantes, mais tout de même, ça va me permettre un peu de faire du lobbying pour les plantes que l'on qualifie de mauvaises herbes. Ces plantes-là, même si elles sont qualifiées de mauvaises herbes, finalement, quand on regarde bien, elles nous donnent notamment une indication sur la nature du sol, sur l'état de la fertilité du sol, je pense au rumex ou des plantes comme ça, ce qui permet aussi de dire que elles sont pas si mauvaises que ça, parce qu'elles, quand même, elles nous indiquent quelque chose.
Mais ouais. Alors, je sais pas pourquoi, d'où vient ce terme mauvaise herbe. Elle est mauvaise peut-être juste parce qu'elle pousse à un endroit et elle a pas été invitée à pousser là. On pourrait dire adventice. Aujourd'hui, on dit beaucoup adventice. C'est une plante qui pousse sur des zones cultivées sans avoir été semée. Et ensuite, bio-indicatrice, oui. Alors, non seulement une plante qui pousse sans avoir été invitée, certes, elle nous indique l'état du sol à ce moment-là. Mais en parallèle du fait qu'elle nous l'indique, elle est là pour réparer ce truc-là. Si le plantain pousse parce que le sol a été tassé, derrière le plantain avec sa petite racine pivot, le sol va être un petit peu plus aéré. Moi, sur un sol qui lessive, ça veut dire à cause des grosses pluies qui au printemps, les éléments minéraux vont partir en profondeur, les gaillets, les lamiers pourpres qui poussent là, qui pourraient être appelées mauvaises herbes, parce que moi c'est mes zones de culture et je veux y faire plutôt des tomates ou des salades, ces plantes qui poussent parce que le sol est lessivé, elles vont récupérer ces éléments fertilisants en profondeur pour les ramener en surface. Donc elles nous indiquent l'état du sol, elles nous indiquent peut-être un défaut de l'état du sol et elles le réparent en même temps. Donc elles ont vraiment rien de mauvaise. Et je vais rajouter une couche, c'est que souvent ces plantes-là sont comestibles. Je parle de plantain, je parle de gaillet, je parle de lamier pourpre, on pourrait parler de pissenlit, on pourrait parler de chénopodes, d'amarantes, de tout ce qui pousse toutes ces mauvaises herbes, je pourrais dire, qui poussent sur nos sols cultivés, elles sont comestibles, elles sont médicinales, elles sont aromatiques, elles sont mellifères, elles ont énormément d'intérêt. Donc, pourquoi continuer à les appeler mauvaises, alors que non seulement elles nous aident, elles nous nourrissent, donc elles sont pas si mauvaises que ça.
J'ai effectivement lu quelque part que c'était un peu la première réponse de la nature pour amener le milieu vers son équilibre. Et donc, tu disais qu'elles poussent par exemple sur une plate-bande où toi tu as prévu de faire pousser tes tomates. Logiquement, il faudrait donc les laisser pousser à ces endroits-là pour leur laisser assez de temps pour réparer ce qu'il y a à réparer dans le sol.
Ça dépend, comme d'habitude. Mais enfin, en tout cas, au moment où on veut y planter quelque chose, peut-être à ce moment-là, on va la couper et on va planter une salade derrière. Moi, c'est un truc qui me fait souvent rigoler, c'est que je vois le travail, l'énergie dépensée par certains maraîchers ou producteurs de légumes pour arracher les pissenlits et ensuite y planter des salades. Déjà, mangez-les, les pissenlits. C'est comme ça, il n'y a pas besoin de faire pousser une salade derrière. Mais en tout cas, oui, elles rendent service. Donc, si on n'a pas besoin de planter quelque chose là maintenant, on n'a pas besoin de désherber et on va désherber le jour où on va planter. Et ce qu'on va désherber, on parle souvent dans les chroniques d'engrais verts, les plantes sauvages peuvent servir d'engrais verts, on va les faucher au moment où on va vouloir planter nos salades et nos tomates. Par contre, ce qu'on va faucher, on va le laisser sur la zone de culture, ça va servir de paillage un petit peu entre temps, ça va se décomposer et finir par nourrir le sol. Donc si on n'a pas besoin de planter quelque chose maintenant, on les laisse pousser effectivement. Et le jour où on va vouloir cultiver, peut-être on va pouvoir faucher quelques plantes là où on va planter, mais on va les garder comme paillage et comme ressources nutritives pour la suite.
Donc il y a déjà pour chacun de nous, à avoir une meilleure connaissance peut-être des plantes qui nous entourent, même les plus communes, même si on les qualifie encore pour certaines d'être des mauvaises herbes, on doit essayer de se documenter un peu pour comprendre quelles plantes font quoi, apportent quoi, réparent quoi, pour comprendre quels sont leurs côtés bio-indicatrices. Toi, c'est un sujet qui t'intéresse énormément, tu as eu aussi à feuilleter et à lire énormément d'ouvrages, à rencontrer beaucoup du monde. Si tu devais, comme ça, à partir de tes souvenirs, essayer un peu de nous conseiller un ou deux livres ou ressources en ligne sur Internet qui peuvent nous permettre d'en apprendre un peu plus sur ces plantes que l'on qualifie à tort de mauvaises herbes, tu nous conseillerais quoi ?
Alors ça dépend qu'est-ce que ça dépend encore. Je m'en aperçois plus à force de le dire, mais ça dépend qu'est-ce qu'on va apprendre. Si on va apprendre les plantes bio-indicatrices, alors il y a trois ouvrages de chez Promo Nature, écrits par Gérard Dussert, qui décrivent toutes les plantes bio-indicatrices et qui décrivent à quoi ressemble la plante pour la reconnaître, c'est quoi son milieu d'origine qui nous permet de savoir du coup qu'est-ce que ça indique sur le sol, et ça dit justement qu'est-ce que cette plante va indiquer. Ces livres coûtent un petit peu cher, et surtout que si on a vraiment besoin de faire un diagnostic de sol par les bio-indicatrices, ces livres ne servent à rien. Si on veut faire un vrai diagnostic, professionnel, ou en tout cas si on est agriculteur qu'on veut connaître son sol, il y a un livret qui coûte 12 euros. Il y a quasiment rien à lire dans ce livret, c'est juste des tableaux de référence de chaque plante et qui va nous permettre de remplir ce tableau pour faire le diagnostic. Ça, c'est intéressant. Mais ensuite, si on a besoin de connaître les plantes pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire derrière, est-ce que sont comestibles, médicinales ou quoi, il y a des bouquins de François Couplan qui s'appelle Le Régal Végétal, par exemple, qui parle de tout ce qui est plantes sauvages comestibles. Mais ensuite, n'importe quel livre sur les plantes sauvages comestibles, déjà, ça permet de mieux les connaître. On dit mauvaises souvent parce qu'on les connaît pas, en fait. On sait pas à quoi elles servent, on sait pas qu'est-ce qu'elles indiquent. Mais le jour où on s'aperçoit que même le chiendent, il est médicinal, la potentille, elle est comestible, même ces plantes qui peuvent être gênantes, le jour où on s'aperçoit qu'elles nous rendent service, elles sont plus mauvaises du tout, finalement.
Mais il faut bien se renseigner sur les quantités à consommer. Comme beaucoup de choses dans la vie, l'excès de quelque chose peut nuire à la santé. Et c'est peut-être ça aussi qui a causé certaines mauvaises presses à certaines plantes, parce que il faut faire aussi attention à ce que l'on consomme, comment et en quelle quantité.
C'est pas parce qu'une plante est comestible qu'on peut en manger un saladier à chaque repas, ça c'est sûr. La consoude, par exemple, celle-là, elle est réputée comestible, et puis dans d'autres ouvrages on va voir qu'elle est toxique, parce qu'elle contient certains alcaloïdes. Le tabac contient des alcaloïdes, ça empêche pas plein de gens d'en fumer tous les jours. C'est pas parce qu'une plante contient certains éléments toxiques qu'il faut pas la manger du tout, mais il faut faire attention aux quantités qu'on consomme. Et ça, c'est valable pour tout. Une plante, surtout si c'est une plante sauvage, elle a poussé à un endroit précis, parce que à cet endroit précis, elle avait exactement tout ce qu'il lui faut. si elle n'avait pas tout ce qu'il lui fallait, c'est une autre qui aurait pris sa place. Et donc tout ça, ça veut dire que cette plante a vraiment tout ce qu'il lui faut pour être chargée à bloc de tous les éléments qu'elle peut contenir. Donc une plante sauvage est beaucoup plus nutritive et beaucoup plus forte qu'une plante cultivée. Donc effectivement, pour se nourrir, on n'a peut-être pas besoin d'en manger autant que des plantes qui ont poussé sur des sols pauvres et nourris aux engrais. Mais du coup, il ne faut pas en abuser non plus.
Alors, je ramène mon potager dans le cabinet du docteur Kulik parce que moi, j'ai fait une observation empirique chez moi sur une parcelle où trop de rumex à feuilles obtuses poussaient, ce qui indiquerait, selon ce que j'ai pu consulter, que le sol à cet endroit-là est asphyxié et qu'il y a eu un apport excessif en matière organique animale, du fumier de vache en l'occurrence, et ça traduirait une saturation en eau. Quelles sont mes options pour améliorer cette zone, Rémi ?
Alors, je vais déjà répondre à ta question et puis après je vais te dire que c'est pas comme ça que ça marche. Mais déjà, alors si le sol est asphyxié, aéré, un coup de grelinette, hein, s'il y a des excès de matière organique, ben c'est que le sol est asphyxié. Donc au final, c'est le même constat derrière. Donc déjà aérer le sol et puis ensuite pourquoi il était asphyxié, déjà voir comment ça se fait, peut-être qu'il a été tassé. Souvent le rumex c'est sur des anciens champs qui ont été labourés avec des semelles de labour. Donc toujours décompacter le sol, déjà, c'est la base. Et ensuite, c'est souvent des sols qui ont été à nu et il n'y a pas eu la végétalisation qui a fait que le sol s'est structuré derrière. Donc, commencer par décompacter, c'est un bon début. Mais si on fait que ça, ça suffira pas parce qu'il va se recompacter peut-être derrière. Et ensuite, végétaliser avec des engrais verts, un couvert végétal. Et à partir de là, garder le sol végétalisé le plus souvent possible et tout le temps, si c'est possible. Et ensuite, là où je veux dire que ça marche pas comme ça, c'est pas parce qu'il y a un rumex qui pousse que ce qu'indique le rumex est exact pour ce sol-là. Pour faire un vrai diagnostic de sol, il faudrait voir sur cette parcelle quelle quantité de rumex il y a. Bah, y a et puis ensuite, il y a que 100% de rumex.
Il y en a, je vais dire, sur 3 mètres carrés, j'en ai 30, quoi, peut-être.
Ok.
C'est vraiment,
okay.
On voit du rumex, pas à perte de vue, mais presque, quoi.
Voilà, ok. Donc, dans ce cas-là, peut-être il est très indicateur. Mais en tout cas, voilà, pour faire un vrai diagnostic, il faudrait voir, ok, il y a beaucoup de rumex, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ensuite, voir quelle surface est recouverte par chaque plante pour pouvoir remplir ensuite ce tableau.
Ouais.
Et puis, voir par rapport aux autres plantes qui y poussent. Le rumex, il va indiquer certaines choses, mais les autres plantes qui sont à côté vont indiquer d'autres choses aussi. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a du rumex que le diagnostic va se baser que sur le rumex. Tu peux t'alarmer parce que s'il y en a beaucoup, beaucoup, il y a un souci. Mais en tout cas, voilà, faut pas s'arrêter juste à celui-là. Faut voir comment il est accompagné, par qui il est accompagné, de quelle quantité de chaque plante il est accompagné. Et ensuite, on pourra faire un diagnostic qui sera vraiment complet.
Donc, en quelque sorte, on doit faire un recensement d'une parcelle
complet,
pour essayer de voir les proportions de chacune des plantes. Et à partir de là, on fait vraiment le diagnostic des plantes bio-indicatrices et qui peut nous permettre de tirer des conclusions qui seront plus ou moins fiables.
Alors,
parce que aussi, il faut faire attention.
Je vais rajouter un truc.
Ouais, vas-y.
Parce que du coup, tu vas avoir un résultat, tu vas avoir un état du sol à un moment donné, à un instant T. Il ne faut vraiment pas oublier ça. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Moi, il y a eu un sol, et ça m'y fait penser quand tu me parles de Terumex, il y a eu un sol juste à côté de chez moi où il y avait un élevage de cochons, donc un sol à nu complet, il n'y avait rien du tout. Et première année, c'était 100% de datura qui ont poussé. L'année suivante, il y a eu beaucoup plus de diversité, mais l'analyse que j'ai faite l'année suivante m'indiquait un sol mauvais. Un sol vraiment mauvais, pollué par les effluents d'élevage parce qu'il y a eu les cochons, un sol compacté. Mais ça indique un sol à un instant T. Mais si on se base sur une seule analyse, si un jour vous voulez le faire chez vous et que vous avez une analyse qui vous indique un état de votre sol, dites-vous que ça vous indique l'état à cet instant-là et qu'il faudra refaire une analyse plus tard pour voir comment le sol évolue. Si je m'étais basé que sur ma deuxième analyse dans mon exemple et que j'avais vu que le sol était dans un mauvais état, je me serais dit ok, le sol, il est vraiment mauvais, il y a un truc qui va pas. Mais si je me base sur cette analyse avec celle d'avant où c'était que du datura, où là, que du datura, ça indique vraiment un sol extrêmement pollué qui ne peut pas être cultivé. C'était un sol, mais plus que mauvais. Mmh. Et l'analyse que j'ai faite ensuite m'indiquait juste un sol mauvais. Mais avant, c'était plus que mauvais. Donc, un sol mauvais, mais en progression quand même. Et ensuite, si on refait encore une analyse derrière, on voit que le sol se stabilise. Et là, ça fait quelques années que j'ai fait ça. Mais encore un an plus tard, le sol était fertile, cultivable, déjà, aéré. Et nous, ce qu'on a fait sur ce sol, c'est juste, on a laissé faire. On n'a surtout pas arraché les datura. Et là, je vais revenir à ce qu'on disait au début de cette chronique. Les plantes sont là non seulement pour nous aider, indiquer un état du sol, mais en plus pour réparer cet état de sol. c'est dans une ferme qu'il y avait cet élevage de cochons, et en général, les gens dans cette ferme arrachaient, fauchaient ces datura. Et ils m'ont demandé, ben là, on ne sait plus quoi faire, il y en a trop, on ne va pas y arriver, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, moi, je leur ai conseillé, ben, on va essayer un truc, ne faites rien. L'année d'après, le diagnostic indiquait un état assez mauvais, mais moins mauvais que quand il n'y avait que les datura, et 2 ans plus tard, il n'y avait plus du tout de datura, et le sol était bon. Et les seuls trucs qu'on a fait, c'est laisser faire. Donc les plantes nous indiquent que ça ne va pas, mais elles nous disent aussi, t'inquiète, je suis là pour m'occuper du truc, on va rendre le sol fertile, t'inquiète pas.
Laissons la nature parfois gérer, si on a la possibilité, on peut laisser une parcelle et aller cultiver ailleurs le temps que la parcelle en question se stabilise et retrouve un équilibre un peu plus, on va dire, potable ou en tout cas fertile pour les prochaines plantations. Plante histoire de plante à retrouver en podcast et sur cfmradio.fr pour celles et ceux qui l'ont pris peut-être en cours de route, qui n'ont pas eu le temps de noter par exemple les références d'ouvrages que Rémi Kulik nous a conseillé si on veut aller un peu plus loin sur la connaissance botanique des plantes non seulement bio-indicatrices mais de ces plantes aussi qui sont qualifiées à tort de mauvaises herbes. Rémi Kulik, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, à bientôt.